Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. Édouard Rosset.
Bonjour, l'Internet va-t-il tuer le droit d'auteur ? La révolution du mode de diffusion des écrits et des œuvres ruine-t-elle le fondement même de création ? Deux questions au cœur de l'actualité à l'heure où l'Internet, le réseau informatique mondial, prend de plus en plus d'importance dans notre société. Alors pour tenter de répondre à ces questions, pour éclairer le débat, nous avons invité aujourd'hui M. Gabriel Debreuil de l'Académie française et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Radio Canal Académie. Alors si nous vous avons convié aujourd'hui monsieur, c'est pour parler de ce sujet qui vous tient à cœur, hein, le droit d'auteur et l'Internet. C'est d'ailleurs le titre de ce rapport que vous avez présidé, que vous avez dirigé et publié aux presses universitaires de France dans la série Cahiers des sciences morales et politiques. Alors, sujet technique, mais je dirais essentiel hein, dans la société d'information dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et la situation est assez paradoxale, nous allons le voir dans les détails au cours de cette émission. Le secteur développé qu'est celui d'Internet souffre véritablement d'un flou juridique encore trop important en matière de propriété intellectuelle.
Oui, vous avez raison de dire que c'est un sujet qui est au cœur de plusieurs processus nombreux. C'est tout simplement parce que la technique elle-même est entièrement nouvelle. Et donc c'est un mode de communication qui est apparu assez rapidement et qui se développe à une vitesse tout à fait impressionnante. On a longtemps dit que, d'une manière générale, la France et les Français étaient en retard au regard de l'Internet. Le retard tend à se combler par rapport aux autres partenaires européens, notamment l'Allemagne, mais enfin il reste très grand par rapport aux États-Unis d'Amérique qui véhiculent une très grande proportion de tout ce qui est véhiculé par l'Internet. Donc c'est un sujet en effet qui est au cœur de beaucoup de processus. Alors une des questions qui est en cause, c'est celle du droit d'auteur. C'est pas la seule, n'est-ce pas ? En prenant les choses dans le détail, nous verrons que ça va ou plus loin ou dans d'autres directions que le droit d'auteur à proprement parler.
En tout cas, Radio Canal Académie en est la preuve vivante depuis quelques jours. Internet est un mode de transmission du savoir très très important aujourd'hui, je dirais même indispensable.
Très important, de plus en plus important, et qui comporte des possibilités techniques et pratiques dont on est loin d'avoir fait l'inventaire. On se sert de l'Internet sans vraiment mesurer la transformation que cela va entraîner pour tout simplement la notion d'œuvre, pour l'écrit, pour la transmission de la connaissance et pour la notion d'œuvre de création. L'innovation très importante, c'est que au fond, le droit d'auteur a été lentement conçu pour l'écrit et pour l'imprimé, pour une pensée se traduisant par l'écriture et par l'intermédiaire de supports bien connus, fixés, stables, dont la diffusion était contrôlée et limitée. Alors voilà maintenant que ce procédé, l'informatique, la numérisation des messages et leur transmission par l'Internet bouleversent complètement la donnée et ne s'appliquent pas seulement à l'écrit, pas seulement à la pensée, mais au son, donc à la musique, à l'image et à toutes sortes d'informations. Ça peut être des logiciels, ça peut être des banques de données elles-mêmes composées de toutes sortes de choses, ça peut être des tables de chiffres, ça peut être des comptes.
Ce qui complique l'exercice en fait.
Ce qui montre bien que c'est une révolution complète, très importante.
Alors, est-ce que l'on peut définir en quelques mots le droit d'auteur ? Le droit d'auteur défend quoi au juste ? Il défend la propriété intellectuelle, la propriété économique d'une œuvre ?
Alors, il y a plusieurs conceptions du droit d'auteur. Il s'est développé en Europe, dans les pays de tradition latine, et de droit écrit, une conception du droit d'auteur, qui est la conception française, qui est que le droit d'auteur est un droit d'abord moral, qui appartient à l'auteur, au créateur d'une œuvre. La notion d'œuvre est au centre et que l'auteur est investi d'un droit à la fois personnel, inaliénable et qui peut être cédé pour permettre la diffusion de sa pensée, mais sous son contrôle, toujours à lui. Alors ce droit est né bien lentement. Sous l'Antiquité, on ne connaît pas le droit d'auteur et l'écrivain n'a pas de droit personnel et protégé sur sa création. Les systèmes de reproduction des œuvres sont très aléatoires, la tradition orale joue encore un rôle important, et donc la notion même d'auteur et donc de droit d'auteur n'est pas fixée. Il semble que ce soit plutôt vers le Moyen-Âge que la notion d'auteur est apparue.
Nous y reviendrons, si vous le voulez bien, Monsieur de Breuil, sur ce volet historique très important, d'ailleurs, pour comprendre la problématique aujourd'hui. Vous le dites d'emblée, au début de votre rapport, et là, permettez-moi de vous citer, l'auteur a toujours eu la tâche difficile de concilier deux exigences contradictoires de son amour-propre, son souhait d'être connu du plus vaste public possible qui le pousse à publier ou à diffuser son œuvre, et puis à courir ainsi le risque d'être copié, plagié, enrichi, contredit, et le désir d'être reconnu comme le seul auteur de l'œuvre. Alors voilà vraiment le décor de notre entretien. J'irai droit au but, Monsieur de Breuil. Le droit d'auteur a-t-il à craindre aujourd'hui du développement des nouvelles technologies de l'information ?
Oui, la réponse est sans ambiguïté. Il y a lieu de craindre. On peut même dire que les atteintes sont déjà portées. Que toutes les craintes, tous les dangers sont déjà matérialisés, le droit d'auteur est déjà affaibli par l'Internet et par la numérisation. N'oublions pas que tout ce dont on va parler lie intimement la numérisation de l'œuvre et sa transmission par l'Internet. Et ces deux phénomènes portent atteinte au droit d'auteur de beaucoup de manières.
C'est-à-dire, pardonnez-moi, la numérisation, c'est un code, on dirait électronique, pas mathématique, mais un code informatique. Cela codifie une œuvre, c'est cela.
Alors, la numérisation consiste à transférer une œuvre qui est généralement conçue, élaborée par la voie analogique, c'est-à-dire la voie directe, celle que l'on perçoit, celle que l'on connaît. Qu'il s'agisse, n'est-ce pas, il faut toujours raisonner comme si on parlait à la fois de l'image, de la musique et du texte, ce qui complique un petit peu notre conception qu'on a des choses. Mais par la voie de l'image, ça se comprend très bien, c'est l'analyse de l'image, comme le fait la télévision d'ailleurs. Pour les sons, c'est la musique elle-même qui peut être écrite, transcrite ou enregistrée ou analysée de différentes manières. Et pour le texte, pour l'écrit, cela consiste à transférer l'écrit qui s'exprime par la voie de l'alphabet et de phrases, de lignes, en un autre codage qui est composé non plus de lettres de l'alphabet et de textes de lignes, mais simplement de deux signaux. Et c'est pour ça qu'on dit numérique. On a dit que c'était le signal 0 et le signal 1, et que la fréquence de répétition de ces deux signaux, 0 et 1, permet de tout exprimer, de tout analyser. C'est un codage.
Un codage qui pose problème donc au droit d'auteur.
Alors, lorsque l'œuvre est numérisée, elle a changé de nature, elle a changé de support. Le numérisé, elle est dématérialisée, elle est dans une mémoire d'ordinateur, mais même pas forcément. Elle peut être transmise simplement, elle est en ligne. Et la ligne transmet très bien le signal numérique, et c'est tout le problème vient de là. Lorsque l'œuvre numérisée se trouve dans une mémoire d'ordinateur, on peut dire que c'est un simple transfert, c'est un codage, et on a déplacé le livre et on l'a mis dans la mémoire de l'ordinateur. Lorsque le signal numérique est en ligne, on l'a dématérialisé complètement, on l'a délocalisé, il est partout et nulle part, et il est très difficile d'en suivre le mouvement, et il est très difficile d'en contrôler l'utilisation dans tous les points du globe possible, à tout moment, parce que tout utilisateur peut capter le message numérisé, le capter, en prendre connaissance et par exemple écouter la musique en direct, mais aussi le capter en ce sens que l'utilisateur peut prendre le message et le télécharger ou décharger, c'est une question de vocabulaire que le français a simplifié. On dit télécharger dans les deux sens.
C'est-à-dire enregistrer à travers l'ordinateur, enregistrer
à travers l'ordinateur une musique, un son, une image ou un texte pour soit le visualiser et en prendre connaissance, soit le mettre dans la mémoire de son ordinateur, soit même le transférer sur de l'écrit ou un support papier, ou même de film, cinéma.
Monsieur De Bruyne, on ne peut pas comparer cela à une simple photocopie. On pourrait dire que Internet permet d'envoyer des millions de photocopies au même moment partout dans le monde.
Alors, la différence, d'abord, elle est de taille, de grandeur d'ordre. La capacité d'Internet est infiniment supérieure au pauvre appareil de photocopie qui procède une page par une page. L'autre différence qui est essentiel, c'est que lorsqu'on transfère un texte ou une œuvre d'un support à un autre par les voies traditionnelles, il y a déperdition de la qualité. Et donc, c'est une copie. Et la copie de première génération est moins bonne que l'original. La copie d'une copie de seconde génération est encore moins bonne. Donc, il y a d'une certaine manière traçabilité et détérioration des œuvres au fur et à mesure qu'elles sont reproduites.
Par photocopie, nous sommes bien d'accord.
Par tout procédé traditionnel de transfert de support. Pensons au cinéma. La bande mère d'un film est pure et parfaite. Lorsqu'elle est copiée la première fois, elle a perdu un peu de définition. C'est la bande qui sert à la projection. Mais si, à partir de cette bande-là, on fait une reproduction d'une autre bande, alors les professionnels estiment qu'elle ne pourra même plus servir à la diffusion d'un film dans de très bonnes qualités. Il y aura une détérioration complète. Donc on est obligé de revenir à la bande mère pour avoir des copies utilisables. Ce n'est plus le cas avec la numérisation.
Il n'y a plus d'altération.
Il n'y a plus d'altération. L'exemplaire que l'on reproduit est exactement le même. Il est cloné. La notion de clonage qui nous a fait tant réfléchir en biologie, elle existe pour les œuvres. L'œuvre est clonée. C'est la même. Dès lors, il y a un nombre de conséquences infinies. D'abord, la diffusion de l'œuvre est infiniment plus facile et importante. N'importe qui sur la planète peut s'approprier l'œuvre dans son état de pureté originelle et l'utiliser pour ses besoins privés, ou pour la reproduire lui-même et la multiplier ou la diffuser de lui-même, sans droit, ou l'insérer dans, par exemple, une autre œuvre et la couper, l'augmenter, transférer des parties d'une œuvre dans une autre œuvre, mixer, etc., etc. Donc l'œuvre devient une sorte de matière atomisée.
Matière brute.
Matière brute qui peut être utilisée de toutes sortes de manières sans déperdition de la qualité.
Oui, mais alors là, vous changez l'œuvre initiale, puisque vous le dites très bien d'ailleurs, et je vous cite de nouveau, les nouvelles technologies de l'information font disparaître tout obstacle à la manipulation, au pillage total de l'œuvre, et vous allez même plus loin en parlant de multiplier l'œuvre à l'infini et sans parler de l'hypertextualisation. Alors là, c'est ce qui permet de retravailler le texte.
Parfaitement. La notion d'œuvre est mise en cause, elle n'est pas mise en cause conceptuellement, mais elle est mise en cause pratiquement par toutes les possibilités de transformation, de mixage, de dégradation éventuellement, de complément, si on veut, qui sont apportés à l'œuvre. C'est particulièrement vrai dans le domaine de la musique. Enfin, je veux dire, on le perçoit très bien dans le domaine de la musique. Vous avez une interprétation sublime d'un grand soliste d'une œuvre classique. Bien, elle est à la fois parfaite et très fragile. Le soin que l'on met à l'enregistrement des grandes œuvres et des grands interprètes montre que c'est une sorte de miracle que l'on veut transmettre. Avec la numérisation, on peut tout faire. On peut changer d'appareil, on peut changer. Imaginez donc que l'on peut changer de violon, on peut changer de piano. Les pianos ont une couleur, ont une certaine
vibration.
Eh bien, on peut tout faire. on peut, par mixage, par traitement, on peut changer la sonorité, le rythme, on peut retravailler toute interprétation, et y compris toute œuvre musicale.
Quel tableau, je dirais, Gabriel Debreuil, car là, j'ai envie aussi de vous dire, inutile d'aller plus loin dans cette émission, le droit d'auteur a volé littéralement en éclats. Il n'y a plus de raison d'être.
Je disais tout à l'heure que l'atteinte est déjà portée. On n'a pas fini d'ailleurs de montrer les transformations. Une autre transformation très importante, c'est que jusqu'à présent, la multiplication d'une œuvre et sa diffusion était une opération compliquée qui supposait un savoir-faire et beaucoup de précautions, beaucoup de techniques et même d'art. Ce n'est plus le cas. Tout le monde peut exercer cette mission qui était accessoire du droit d'auteur, qui a toujours été accessoire, qui était la mission de l'éditeur, la mission de celui qui prend en charge l'œuvre, qui rémunère l'auteur, nous y viendrons tout à l'heure, et qui assure la diffusion, la mise à la disposition du public, et cette opération qui fait connaître l'œuvre.
Qui prend les risques, en fait.
Et qui prend donc le risque économique, et d'où l'entreprise d'édition. Que ce soit édition de livres, ou maison de disques, ou producteur de cinéma. Eh bien, par Internet, il suffit qu'une œuvre soit mise sur le réseau, soit en ligne, pour qu'elle soit à la disposition de tout le public potentiel qui utilise le réseau. Or, cette mise en ligne est dans la possibilité de n'importe qui, de n'importe quel particulier. D'où cette notion que les auteurs n'ont plus besoin d'éditeurs. Il leur suffit de prendre leur texte et de le mettre en ligne sur l'Internet. Et l'œuvre est éditée, elle est diffusée, en autant d'exemplaires qu'il y aura d'utilisateurs d'Internet qui voudront en prendre connaissance. D'où cette notion aussi que tout le monde peut être auteur édité. N'est-ce pas ? Pour qu'une œuvre ait du succès, il fallait qu'il y ait un certain nombre de filtres. Il fallait que l'œuvre existe, qu'elle soit jugée par un certain nombre de gens, qu'elle soit exécutée s'il s'agit de la musique, et donc qu'un orchestre ait pris en charge de jouer l'œuvre. Que pour un film, vous imaginez le nombre de concours qu'il faut réunir pour que le film existe. Et après cela, il faut distribuer, diffuser, et donc une opération lourde économique. Avec l'Internet, un simple particulier peut mettre en ligne ce qu'il qualifie lui-même de son œuvre, qui peut être un infâme brouillon, n'importe quoi, mais il est son propre éditeur. Et donc c'est même la notion, non seulement la notion d'œuvre, mais la notion d'auteur, mais même la notion d'éditeur tend à disparaître. Ce n'est pas le cas, n'est-ce pas ? Je suis en train de faire une caricature là, ce n'est pas le cas. Les atteintes portées ne sont pas celles-là. Les éditeurs n'ont pas de crainte à avoir de ce point de vue-là. C'est-à-dire que l'auto-édition par mise en ligne sur Internet, c'est tout de même un phénomène extrêmement... Quelques auteurs y ont recours, quelques auteurs y ont déjà recours.
Mais ça reste un métier quand même,
mais
il faut le connaître.
C'est
faut...
difficile, on ne peut pas, n'importe qui ne peut pas le faire. Donc là, c'est une caricature. Mais où le risque est déjà très grand et réalisé, c'est pour la distribution de la musique. Le piratage des œuvres musicales est une chose qui est généralisée maintenant. Pas massivement, mais enfin généralisée maintenant. Les producteurs de musique, et le producteur de disques en particulier, le savent très bien. On parle de disques, mais en réalité, c'est les producteurs de compact disques, de disques numérisés, le savent très bien. Ils recherchent la manière de lutter. Peut-être nous abordons cette question tout à l'heure, comment lutter contre cela. Mais en tout cas, le risque potentiel de piratage de l'œuvre, et donc piratage de spoliation de l'auteur, de son droit d'auteur, est déjà un risque réalisé.
Bien, Gabriel Debreuil, nous marquons une pause. Nous nous retrouvons dans un instant. Je rappelle que dans l'émission Éclairage, aujourd'hui, nous parlons du droit d'auteur sur l'Internet, thème auquel vous avez consacré un rapport au nom de l'Académie des sciences morales et politiques, rapport publié aux Presses universitaires de France. À tout de suite.
Canal Académie.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de l'histoire. Leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Radio Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Radio Canal Académie.
Vous écoutez Canal Académie. Thank you. Canal Académie.
Éclairage reçoit donc aujourd'hui Gabriel Debreuil, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'Internet et du droit d'auteur, sujet qui fait l'objet, monsieur Debreuil, je le disais, d'un rapport publié au PUF, les presses universitaires de France. Alors depuis la rédaction de ce rapport, beaucoup d'eau évidemment a coulé sous les ponts, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. La notion de droit d'auteur sur Internet a littéralement volé en éclats. Qu'en est-il aujourd'hui sur le plan juridique ?
Alors, on aborde le volet « que faire », n'est-ce pas ? Comment maîtriser, en quelque sorte, cette nouvelle situation qui s'est créée dans une vie en un temps record et qui remet en cause beaucoup de notions fondamentales. Que faire ? On s'est beaucoup interrogé sur cette question, des groupes de travail, des concertations avec les différentes professions concernées. L'État doit-il intervenir ou pas ? Faut-il changer la législation ? Le point de départ, c'est que le droit d'auteur s'applique. Et c'est une grande affirmation que celle-là. C'est que le droit d'auteur est formulé indépendamment du support sur lequel est inscrit l'œuvre. Et donc, sur Internet, le droit d'auteur s'applique. Le droit d'auteur, dans sa conception classique et avec toutes ses conséquences. C'est une situation sécurisante. Enfin, c'est préférable d'affirmer cela.
Mais dans quelle mesure s'applique-t-il ?
Alors, il s'applique théoriquement.
Oui.
Ils appliquent théoriquement, c'est-à-dire que tous les procédés du droit de reproduction, du droit de mise en diffusion d'une œuvre, etc., n'ont pas à être réaffirmés parce que les affirmations précédentes continuent à s'appliquer sur l'Internet. Maintenant, comment s'appliquent-elles ? Quelles sont les atteintes véritablement portées ? Et là, on peut dire que le droit essaye de suivre le fait et essaye de pallier aux différentes atteintes les plus graves. En ce qui concerne l'écrit, le livre, l'atteinte n'est pas considérable. Les éditeurs de livres, de journaux, ne se plaignent pas d'une perte de leur diffusion, de leur activité par l'Internet. On ne lit pas encore un livre sur l'Internet, sur son écran d'ordinateur. Cela viendra.
Oui.
On étudie beaucoup cette question. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce livre, cet objet bizarre
avec des
feuilles de papier, n'est-ce pas ? Pourquoi ne pas avoir un écran et ne pas tourner les pages sur l'écran et passer de la sauter des pages et voir en continu ou pas en continu le texte ? Enfin, c'est peut-être une chose qui viendra. Ce n'est pas là qu'est le danger. Le danger, il est pour la musique. Et là, les atteintes sont déjà portées. Alors comment les producteurs de musique, qui eux ont le droit d'auteur, c'est-à-dire le droit du compositeur et le droit des interprètes sur leur interprétation, comment peuvent-ils se protéger contre ce piratage qui consiste soit pour les particuliers à prendre une œuvre qui est en ligne, soit pour d'autres particuliers moins bien intentionnés à voler l'œuvre et à la diffuser eux-mêmes. C'est les copies piratées. On a essayé beaucoup de moyens. Il n'y avait pas tellement de modifications du droit à envisager, car le droit d'auteur s'applique. Simplement, c'est la pratique. Comment le faire respecter ? Alors, la première démarche était de dire il faut crypter les œuvres, il faut que n'auront accès à l'œuvre en ligne que ceux qui pourront avoir, qui auront un droit à le faire, c'est-à-dire qu'il y aura un cryptage de l'œuvre et que seuls ceux qui détiennent la clé de ce cryptage pourront avoir accès à l'œuvre. Magnifique raisonnement. Sauf que cela a donné lieu à une course de vitesse entre les pirates et les crypteurs. Et chacun sait que dans le domaine de la technique du cryptage et la technique du décryptage, eh bien, il y a une inventivité formidable qui fait que tous les experts le savent bien, il n'y a pratiquement pas de cryptage qui tienne contre les assauts des pirates. On a imaginé toutes sortes de cryptages. Par exemple, certains producteurs de disques ont dit « on pourrait crypter » pour la seconde utilisation de l'œuvre. C'est-à-dire que l'œuvre qui est en ligne serait à la disposition une fois pour chaque utilisateur d'Internet. Mais pas deux. Parce que si c'est deux, alors c'est plus entendre une œuvre, c'est faire autre chose. On peut très bien, c'est facile, mais c'est facile aussi de forcer le cryptage. Et une fois qu'on a forcé la porte, eh bien, on reproduit le nombre de fois que l'on veut. Et donc, nous en sommes là, cette course de vitesse. Les professionnels se sont réunis, ont adopté des codes de bonne conduite. Le droit écrit est tout à fait bien, mais comment poursuivre les pirates? C'est très difficile. Les maisons de disques, je dis les maisons de disques, mais enfin c'est tous les éditeurs de musique, producteurs de la musique subissent dès maintenant un préjudice très important, et cela veut dire les auteurs-compositeurs. Mais à la limite, le piratage des compositeurs est presque moindre que celui d'une profession entière qui est celle des éditeurs de phonographes.
Oui. Alors, dans tous les cas, Gabriel De Breuil, l'équation est quand même très difficile parce que d'un côté, il faut légiférer pour respecter le droit, respecter l'œuvre, respecter la mémoire. Et puis d'un autre côté, on pourrait se dire aussi, bien, gare à la surprotection qui peut se révéler un frein à la création et un frein à la diffusion de la culture, en l'occurrence de la culture française à travers le monde.
Non? Oui, bien sûr. C'est la grande conciliation, la conciliation très difficile qui est à faire maintenant. Si vous permettez, est-ce qu'on peut revenir un instant en arrière et pour dire que la menace, le dommage, est en train de se produire aussi pour le cinéma. Le cinéma, c'est-à-dire l'audiovisuel, ne sont pas de différence entre l'émission de télévision et le film de cinéma. C'est-à-dire qu'une nouvelle technique, la DSL, est en train de permettre de transmettre l'image animée, le film ou le document vidéo, sur Internet et de le capter par des moyens très faciles, c'est-à-dire la ligne de téléphone.
La DSL, pardonnez-moi, c'est le haut débit en Internet. Hein.
Alors, la DSL, le phénomène qui permet d'accéder à cela, c'est la compression d'image. Maintenant, cela peut passer par la ligne du téléphone. Et la ligne du téléphone aboutit à l'écran d'ordinateur ou même à l'écran de téléphone portable.
Et tout cela démultiplie donc les possibilités de transmission d'image.
De piratage du film, de piratage du document vidéo. Mais on voit très bien en même temps que si cela se répandait complètement, la notion même de film serait complètement transformée. À partir du moment où on a un film dans sa poche et on peut le regarder constamment par un appareil qui est de la taille de, moi je dis une boîte d'allumettes encore, mais ça n'existe plus une boîte d'allumettes. En tout cas, un écran de téléphone portable, eh bien, le film de cinéma qui nous a tant fait rêver n'a plus tout à fait la même nature.
N'a pas la même dimension, en tout cas.
Pas la même dimension.
C'est le cas de le dire.
Et pas la même puissance d'évocation.
Absolument. Alors, donc, gros risque en matière musicale, en matière cinématographique.
Alors, cinématographique, c'est pas encore réalisé, mais c'est en train de se réaliser.
Voilà, donc prudence.
Donc,
beaucoup moins de risque, vous nous l'avez dit, beaucoup moins de risque en revanche, mais le risque est quand même là concernant les textes écrits. Alors je reviens à la question, équation difficile, besoin de légiférer, certes, mais gare à la super protection qui pourrait freiner la création et la diffusion de la culture, en l'occurrence française, à l'étranger.
Oui, il faut faire en sorte que l'œuvre bénéficie de toutes les possibilités de diffusion. De ce point de vue, il y a quelques actions à entreprendre et on peut dire que jusqu'à présent, disons, la France n'est pas dans le peloton de tête. Il faut faire un effort pour que l'œuvre en français, il s'agit de la langue, mais aussi l'œuvre française, image et musique, soit présente sur l'Internet. Il y a là un effort qui doit être encouragé. Parce que ce n'est pas dans la démarche habituelle des professionnels, des éditeurs d'images ou de musique. Et la rentabilité de cette action n'est pas encore complètement assurée, garantie. Mais il y a un enjeu important de faire que l'œuvre en français ou française soit présente sur l'Internet. Alors je disais, la rentabilité n'est pas complètement garantie. Bien entendu, le jour où la rentabilité sera assurée, alors nous aurons changé d'univers. On achète un livre, on paiera pour avoir connaissance d'une œuvre sur l'Internet. Dès lors que...
Vous y croyez à cela?
Ça viendra, forcément. Oui, oui, c'est un simple, une simple question de facturation et de mode de paiement par télépaiement. Bien entendu, ça, tout ça est lié avec la reconnaissance de la parole, n'est-ce pas ? Mais on ne paiera plus par chèque, évidemment, en signant un chèque. On ne paiera plus non plus par carte bancaire en faisant son numéro de code. Non, on paiera par la voix.
Si je vous comprends bien, Gabriel Debreuil, nous sommes aujourd'hui dans un flou juridique, mais ce flou juridique aura un jour une fin et il y aura enfin une solution juridique à tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui que la transmission du savoir connaît par Internet.
Alors, je ne voudrais pas faire de l'angélisme tout de même. La question est plus compliquée que ça. Parce que si on se cale sur les principes, alors on peut dire ce que vous venez de dire. On dit le droit existe, il est parfaitement conçu, il s'applique. Il y a des problèmes d'application pour le moment pour certains modes de reproduction, mais on les dominera, on les surmontera. C'est de la technique. Et bien entendu, tous les progrès sont possibles de ce point de vue-là. Et donc, on aura maintenu, préservé la situation de l'auteur protégé, individuellement protégé, de l'éditeur qui, dont l'exploitation économique sera garantie, et de tous les autres professionnels qui interviennent dans la transmission de l'Internet. On n'a pas parlé du fournisseur d'hébergement, du fournisseur d'accès, etc. Mais qui ne font que remplir des fonctions comme l'éditeur ou le vendeur de journaux, n'est-ce pas ? Ce sont les mêmes opérations. Simplement, c'est dématérialisé et ça se passe sur l'Internet. Alors, cela sera possible le jour où on aura réussi à lutter contre le piratage et où on aura réussi à faire l'exploitation économique sur l'Internet. Cela existe déjà, on achète et on vend sur Internet. Beaucoup de gens savent très bien faire leurs achats sur l'Internet. Et donc, on pourra de la même manière acheter la vision d'un film ou un morceau de musique.
À condition d'avoir réglé le problème du piratage.
À condition d'avoir réglé le problème du piratage.
Parce qu'un aspirateur, pardon de l'exemple, mais acheter un aspirateur par Internet, on ne risque pas de multiplier ou démultiplier l'objet, alors qu'un livre ou un film, on peut le copier.
Parfaitement. Acheter l'exemplaire d'un film sur Internet, ça veut dire que le livre est sur l'Internet, ça veut dire que n'importe qui peut le prendre et que à partir du moment où il l'a pris, comme le clonage existe, il peut le multiplier à autant d'exemplaires qu'il veut. C'est encore plus vrai pour la musique. Donc, il y a une course de vitesse, n'est-ce pas ? Tout perfectionnement technique favorise encore plus le piratage. Et alors, il n'est pas sûr que les problèmes soient surmontés. Qui va gagner la course de vitesse ? Le problème mérite qu'on s'y arrête un instant, parce que qui va gagner la course de vitesse ? Si elle est perdue, c'est l'auteur qui en fait les frais. C'est l'auteur qui, progressivement, voit ses droits restreints et sa situation, jusqu'à présent inébranlable et inexpugnable, menacée. Et c'est une situation qu'il faut bien envisager parce que le droit d'auteur, et je voudrais élargir un peu les choses, le droit d'auteur est en réalité une création de la société occidentale, d'origine grecque et latine, et qui a eu son expansion complète pendant les siècles qui ont précédé, les siècles classiques, qui ont correspondu à l'épanouissement d'une notion à laquelle nous sommes attachés, qui est celle tout simplement de l'individualisme. Il y a un lien étroit entre l'individualisme comme conception générale de la société et la reconnaissance de l'auteur comme créateur individuel mettant sa création à la portée des autres individus. Des sociétés purement collectivistes peuvent très bien nier cette reconnaissance du droit d'auteur. D'ailleurs, dans les sociétés anciennes, il n'était pas reconnu. Dans des sociétés asiatiques, le droit d'auteur est beaucoup moins facilement reconnu. Le droit du copiste, le droit du miniaturiste, le droit du calligraphe, est-il complètement reconnu en Chine ? Pas de la même manière que le droit d'auteur dans nos sociétés. Et on peut très bien imaginer que il y ait une érosion. Bien entendu, on ne va pas faire disparaître le droit d'auteur, mais on va atténuer la portée non pas théorique, ou peut-être même à la fin théorique, mais en tout cas pratique, de tous les privilèges qui sont reconnus à l'auteur par une législation tout à fait solennelle et confirmée, et même si cette législation s'applique à l'Internet. Alors la question mérite d'être posée, parce qu'il y a au moins deux conceptions du droit d'auteur. Il y a la conception française et il y a la conception américaine. Le droit d'auteur, d'un côté, qui est individualiste, qui protège l'activité créatrice.
Pragmatique.
Enfin, pas tellement pragmatique. Non, le droit d'auteur à la française protège l'acte de création.
Donc plutôt romantique.
Plutôt, oui, c'est ça, intellectuel, avec une forte dose de valeur intellectuelle ajoutée. Et protège l'individu créateur contre tout le reste, y compris l'exploitation économique. D'une certaine manière, le droit d'auteur a été créé pour obliger les libraires à rémunérer l'auteur. L'autre conception, c'est le copyright. Et le copyright tente à considérer...
Donc ça, c'est la méthode américaine.
C'est la conception américaine. C'est une conception, n'est-ce pas ? Tente à considérer que l'acte de création n'existe, n'a d'intérêt, ne doit être protégé qu'à partir du moment où il est mis à la disposition du public. Et qui met à la disposition du public, ce n'est pas l'auteur. C'est le producteur. Et donc, le système du copyright rémunère le producteur, qui lui a réalisé l'acte complet. Le livre manuscrit sortant de la plume de l'auteur n'a pas d'existence économique. Il faut attendre sa publication. Le film n'a pas d'existence. Le scénario d'un film, ce n'est rien. Les notes du réalisateur, ce n'est rien. Le film n'existe qu'à partir du moment où le producteur a pris toutes les dispositions et les risques pour le mettre à la disposition du public. Et le copyright, c'est de transférer le droit d'auteur au producteur, à charge pour lui de rémunérer tous ceux qui sont intervenus pour la création de l'œuvre, y compris l'auteur. Mais à ce moment-là, l'auteur change de nature, ce n'est plus un individu indépendant propriétaire de son œuvre, c'est un salarié qui a fourni son travail à quelqu'un qui, lui, est le titulaire du droit et qui est le producteur.
Ce sont deux cultures totalement différentes.
Ce sont deux cultures
complètement
différentes.
Culture française et américaine.
L'une individualiste, et mettant l'accent sur la création, l'autre pratique, économique, mettant l'accent sur l'acte collectif de mettre à la disposition en général. La question, c'est de savoir quelle est la conception qui va prévaloir. Est-ce que l'Internet ne fragilise pas le droit d'auteur à la française et ne va-t-il pas entraîner un basculement vers le copyright ? La question a fait l'objet de beaucoup d'études théoriques et d'ensemble. Et la réponse est plutôt satisfaisante.
C'est-à-dire ?
La réponse est que les atteintes portées à la création et à la diffusion en bloc sont aussi graves dans le système du copyright que dans le système du droit d'auteur à la française
ou
à l'européenne.
Un partout.
Un partout. On est dans la même situation. Et il s'agit de protéger les mêmes choses. La lutte, c'est contre le piratage, c'est contre de protéger le titulaire du droit. D'une certaine manière, le producteur, même en droit à la française, le producteur, il est titulaire d'un droit. Et donc, il s'agit de protéger le titulaire du droit, les titulaires de tous les droits légitimes, contre le pirate. Eh bien, les deux systèmes sont à égalité.
Donc, il faut tout remettre à plat, alors.
Alors,
tout est à créer, tout est à faire.
Les travaux ont été poussés très loin dans ce domaine. Et notamment dans le cadre européen, parce que la question n'est pas française, elle est européenne.
Par définition, elle n'a pas de frontières. Internet
n'a aucune frontière. Et heureusement, grâce à la clarté de notre système, grâce à l'activité des experts français, ce sont des questions de grande expertise, n'est-ce pas, de grande érudition. Les négociations des conventions internationales sur le sujet sont des questions les plus compliquées intellectuellement. Nous avons quelques experts. Et grâce à cette situation, dans le cadre de la communauté économique européenne, il s'est trouvé que les Allemands, les Français et les Italiens, mais la conversion des Allemands au système de droit d'auteur classique à la française, a fait que le droit européen s'est converti au droit d'auteur individuel. Et donc tous les instruments, toutes les manières de se protéger sont conçus en respectant le droit d'auteur individuel. Et on s'aperçoit que les dispositions à prendre sont pratiquement les mêmes que dans le domaine du copyright. Et que, en réalité, du point de vue de la lutte contre le piratage par la numérisation et l'Internet, les deux systèmes se rapprochent. Ils ont à faire face à un ennemi commun et les deux systèmes se rapprochent. Alors ça, c'est plutôt rassurant, n'est-ce pas ? Il n'y a pas, à l'intérieur de la protection de l'auteur, il n'y a pas une guerre entre deux systèmes. Non, il y a un front.
Alors maintenant, il faut peaufiner le système.
Alors il faut peaufiner le système et il faut que la technique permette de dominer les choses avant que les pirates aient gagné. Enfin, le piratage, les pirates, il ne faut pas culpabiliser. Tout le monde peut éventuellement être pirate. C'est avant qu'il soit devenu d'usage courant de se procurer de la musique gratuitement en le piratant, il faut bien dire, sur Internet, avec des stations de piratage, avec c'est établi, n'est-ce pas ? Les gens savent très bien, les jeunes savent très bien où on peut pirater la musique.
Oui, tout est question de génération. Nous marquons une nouvelle pause, monsieur De Breuil, et nous nous retrouvons dans un très très court instant pour continuer à parler de ce droit d'auteur sur Internet. À tout de suite.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.
Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie se penche sur la construction européenne. Les frontières de l'Europe d'un point de vue historique, l'Europe vue du monde arabo-musulman, l'Europe médiévale, l'Europe et les femmes. Radio-Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Radio-Canal Académie.
Canal Académie.
L'Internet et le droit d'auteur, c'est donc le thème que nous développons avec notre invité, M. Gabriel De Breuil, membre de la Française, membre également de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, nous parlions tout à l'heure du piratage avant la pause, M. De Breuil. Est-ce que tout cela doit aboutir à une loi ? Faut-il légiférer et si oui, jusqu'où ?
Pas sur le plan des grands principes. Il y a simplement un ou deux points qui doivent être réglés par la loi, qui sont nouveaux, mais qui sont accessoires, qui sont marginaux. Ils ont déjà fait l'objet de directives européennes, donc le droit est déjà fixé. Et la loi française est déjà en grande partie adaptée. Donc il n'y a pas de loi à établir en France. Quels sont les points sur lesquels il faut légiférer, ajouter quelque chose ? C'est qui est titulaire des droits et quels sont les actes qui donnent lieu à rémunération du droit d'auteur ? Rémunération de l'auteur. Qui est titulaire des droits ? Ça pose la question de la responsabilité du fournisseur d'accès et du fournisseur d'hébergement. Et ça sont des questions nouvelles. On connaît très bien la responsabilité de l'éditeur de livres, du directeur de journal. On sait qu'il y a un directeur de journal dans chaque journal qui est toujours responsable. Alors qu'il n'a rien écrit, c'est pas lui l'auteur des articles, mais il est toujours responsable.
Il est garant de la politique éditoriale notamment.
De la politique et de la responsabilité du journal vis-à-vis des tiers, vis-à-vis de tout le monde. Alors, qu'en est-il dans le domaine de l'Internet ? Les rôles sont nouveaux, évidemment, et donc, où met-on la responsabilité ? Alors, il y a une entente qui s'est bien établie pour dire que le fournisseur d'accès, lui, il n'a pas de responsabilité, il est simplement l'instrument technique.
C'est un intermédiaire, le fournisseur d'accès.
C'est un intermédiaire.
Entre le client
entre le fournisseur du contenu et l'utilisateur. Tandis que le fournisseur d'hébergement, lui, c'est l'éditeur et qu'il a une responsabilité dans la mise à la disposition du contenu de l'œuvre. Mais ce n'est pas si vrai que ça, parce que on s'est aperçu que ces modes de diffusion si larges, si puissants, pouvaient véhiculer autre chose que des œuvres, pouvaient véhiculer des crimes, pouvaient véhiculer des actions contraires à l'ordre public. Et là, on n'est plus dans le droit d'auteur, on est dans la sécurité publique, n'est-ce pas ? Et donc, on a été admis, de même que le directeur de la publication pour les journaux d'ailleurs, c'est pas une question de droit d'auteur de dire que le directeur de la publication est responsable, c'est une question d'ordre. Et donc, on a été amené à dire que le fournisseur d'accès, certes, il n'est pas responsable du contenu, mais il est tout de même responsable d'un certain nombre de choses. A-t-il connaissance d'infractions ? S'il a connaissance, a-t-il pris les dispositions qu'il devait prendre pour éviter l'infraction ? a-t-il signalé aux autorités que des infractions étaient en train d'être commises ? Et si, au bout du compte, on n'a pas réussi à maîtriser le phénomène criminel ou d'infraction, a-t-il pris les mesures pour faire cesser l'infraction ? Parce qu'il peut toujours fermer. Et alors des textes, des jurisprudences, des décisions de justice et des textes ont été adoptés pour préciser les choses, c'est très délicat, n'est-ce pas ? Mais pour préciser les choses et pour imposer aux fournisseurs d'accès quelques obligations. Ont-ils eu connaissance ? Ce qui est en jeu, c'est tout simplement le crime contre l'humanité, la pornographie et la pédophilie, et le trafic de drogue, et etc.
Enfin, il y a eu quelques condamnations.
La grande criminalité,
Il y a eu quelques condamnations, des moteurs pour ne pas les citer, Yahoo notamment, on se souvient,
absolument.
Il y a quelques mois. Oui.
Absolument.
En tout cas, aucune autorégulation, c'est-à-dire que le système ne doit pas se réguler lui-même, il faut une autorité de régulation.
Grande question. Parce que l'Internet, c'est la liberté. L'Internet est né avec une mystique, curieusement. C'est comme les messages, vous savez, sur les routes.
La CB.
La fréquence du citoyen. Non, je ne voulais pas dire CB parce que c'est un terme anglais. On appelle ça la fréquence du citoyen. Là, c'est libertaire. La fréquence du citoyen, il n'y a pas de régulation du tout. Que faut-il inventer pour l'Internet ? L'Internet est né à peu près avec la même idée libertaire que la fréquence des citoyens. C'est-à-dire que c'était un espace à la disposition de tout le monde où on pouvait faire n'importe quoi. Et on n'était pas vraiment responsable.
Après avoir eu une application militaire quand même aux États-Unis.
Oui, la naissance est tout à fait différente, bien sûr. C'est pour des raisons de stratégie, de haute stratégie. Je peux dire un mot sur la naissance, elle est très intéressante.
Vous en prie.
L'Internet a été inventé pour permettre aux autorités militaires de sécurité américaine d'être assurées de pouvoir communiquer en toutes circonstances, y compris lorsque les centres de communication sont détruits. On ne peut pas détruire l'Internet. Il n'est nulle part. Il y aura toujours une voie pour passer. Et ça a été inventé pour ça. C'est extraordinaire comme invention. D'ailleurs, on le voit bien en conséquence, n'est-ce pas ? Alors, ce réseau immatériel, peu coûteux d'ailleurs, et pouvant servir en toutes circonstances, a été élaboré d'abord par les agences de sécurité américaines, puis passé des agences de sécurité américaines aux fondations américaines pour la recherche et l'enseignement supérieur, les universités.
Pour transmettre les données.
Pour transmettre
pays,
le savoir, la connaissance, hein, ce qui est aussi une belle idée, n'est-ce pas ? D'où l'idée de gratuité, d'irresponsabilité. C'est un espace de
libre.
Libre. Et à partir de là, le système a explosé. Tous azimuts, toute utilisation. Alors, peut-il rester sans régulation ? Non. Il est régulé techniquement par des organismes dont on connaît les noms, qui sont des organismes des États-Unis d'Amérique et qui assurent, disons, le fonctionnement technique de cet ensemble magique. Mais peut-il être régulé dans son usage ? Oui, il peut et il doit l'être. Il faut que les opérateurs habituels de l'Internet adoptent eux-mêmes des codes de bonne conduite. Ils l'ont fait. Et se mettre d'accord sur une autorégulation collective.
Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux, ça,
collective. Ça fonctionne. Oui, oui. C'est-à-dire que les abus et les dommages interviennent d'abord. Et c'est lorsque des dommages ont pris une gravité exceptionnelle qu'on est obligé d'en appeler à la responsabilité des opérateurs en disant, écoutez, vous ne pouvez pas, l'Internet ne sert pas à ça, vous ne pouvez pas laisser se développer ça. Et alors, à ce moment-là, ils font de la autorégulation. Et cette autorégulation n'est pas suffisante, et donc on a inventé un système qui est plus rassurant, qui est une co-régulation, c'est-à-dire que on fait confiance aux opérateurs de l'Internet pour assurer eux-mêmes une certaine régulation déontologique, si on veut, mais enfin déontologique au troisième degré, c'est-à-dire que il n'y a pas de déontologie dans la communication d'Internet, c'est libre, on fait ce qu'on veut, y compris les choses horribles,
n'importe quoi.
Tout et n'importe quoi, y compris d'ailleurs de travestir les œuvres.
On y revient.
Rien n'empêche à quelqu'un de mettre sur Internet une fausse édition d'une fable de La Fontaine. Je dis ça parce que le cas s'est produit pour des lettres de Madame de Sévigné. On s'est aperçu que quelqu'un avait mis sur l'Internet une édition des lettres de Madame de Sévigné en finlandais. Et alors, ça a donné lieu à un bel effet dans un colloque savant littéraire en disant, vous savez, l'Internet sert à la diffusion du savoir, il y a une édition des lettres de Madame de Sévigné en finlandais sur l'Internet. Bravo. Et un spécialiste de Madame de Sévigné est allé voir. Il dit, tiens, très curieux. Il est allé voir et il s'est aperçu que quelqu'un avait en effet mis sur Internet les lettres de Madame de Sévigné. Malheureusement, il y avait des manques qui n'étaient pas signalés. Et d'ailleurs, rien n'est jamais signalé de ce point de vue sur Internet. Il n'y a pas d'accréditation. On n'est jamais sûr de ce qui est, de ce qui circule. On peut prendre n'importe quel message sans jamais savoir s'il est vraiment. Et donc, il y avait des coupures non signalées, ce qui est déjà une infraction grave. Enfin, pour quelqu'un qui édite un texte classique littéraire, on le signale. Puis il y avait plus grave que ça. Il y avait des paragraphes ajoutés. Et donc, ce genre de démarche qui peut germer dans l'esprit de quelqu'un qui n'est pas tout à fait, qui est probablement un fou d'Internet, disons, n'allons pas plus loin, peut se répandre. Mais ça, c'est pas une faute contre la déontologie d'Internet, ça fait partie d'Internet. Alors la co-régulation, c'est pas ça. Il n'y a pas de déontologie propre à Internet. Mais il faut qu'il y ait une déontologie d'ordre public. Il faut que les grands principes de l'ordre public soient préservés. Et alors à ce moment-là, l'État doit intervenir, il doit de toute façon intervenir. Tout cela doit passer par le contrôle de l'État et la garantie de l'État pour l'ordre public. Et c'est à l'État d'intervenir pour prendre les précautions. D'ailleurs, tout l'appareil judiciaire marche sur Internet et contre Internet. La seule difficulté, c'est que comme c'est immatériel et comme ça, l'Internet ne connaît pas de frontières, les autorités nationales ont une grande difficulté à exercer leur mission. Et on s'en est bien aperçu lorsque la France a dit qu'elle n'accepterait pas que l'Internet véhicule des messages de crimes contre l'humanité ou racistes, simplement, par l'Internet. Et alors, dans les enceintes internationales, on s'est regardé en disant, bon, c'est très bien, les autorités françaises ont probablement raison, mais comment vont-ils faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et alors, on essaye de faire, en détectant les sites et en poursuivant ceux qui sont relèvent de la juridiction française.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Monsieur Gabriel de Breuil de l'Académie française, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Je renvoie évidemment à la lecture de votre ouvrage. Nous n'avons pas pu être exhaustifs aujourd'hui, et c'est tant mieux d'ailleurs, car il faut inciter l'auditeur à se plonger dans ce fabuleux rapport, Le droit d'auteur et l'Internet, publié aux presses universitaires de France. Et je serais tenté de vous dire, et vous conclurez certainement par une note optimiste,
ce qu'il faut dire tout de même en terminant, c'est qu'il y a une conciliation. Vous l'aviez dit au début, et c'est tout à fait juste, ça figure dans notre rapport, la conciliation, c'est le respect de l'auteur individuel, de la mise à la disposition du public et de la diffusion la plus large possible de l'œuvre. Eh bien, l'Internet va nécessairement modifier les termes de la conciliation. Et il n'est pas sûr que notre conception très ancrée, très forte, de l'auteur individuel, qui tout seul, sur sa table, crée l'œuvre, que cette conception ressorte tout à fait intacte de, disons, quelques générations d'Internet. D'ailleurs, l'atténuation du droit d'auteur s'est déjà produite pour le cinéma, puisque l'auteur d'un film, ils sont plusieurs au minimum, n'est-ce pas ? Le réalisateur est auteur du film, le compositeur de musique aussi, etc., etc. Donc la notion d'auteur doit être défendue dans son fondement moral et dans son individualisme. Son exercice probablement sera adapté.
Eh bien, vous reviendrez bien sûr au micro de Radio Canal Académie pour nous tenir informés de l'évolution de ce dossier. On le voit, loin d'être refermé. Merci infiniment. Au revoir, monsieur.
Au revoir.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.
Toutes les générations se retrouvent sur Radio Canal Académie. Parce que l'histoire est un éternel recommencement, chaque génération enrichit son présent et son futur. Académiciens et élèves de grandes écoles se retrouvent quotidiennement autour du micro de Radio-Canal Académie pour échanger leur point de vue sur un thème choisi. Un thème, un académicien, des élèves, plusieurs générations se rencontrent, toutes se retrouvent. Écoutez-les.
Vous écoutez Canal Académie.